Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noël Aluzitu Kabambi.
Vital Kamerhe est choisi comme candidat unique de l'Union sacrée pour la nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Il a obtenu hier 183 voix sur les 372 votants devant Christophe Mboso et Modeste Baati-Lukwebo. Des enfants contraints de mendier et des jeunes filles obligées de se prostituer pour survivre. C'est la situation quotidienne des déplacés de la commune rurale de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Ils y sont près de 30 000, ces déplacés qui ont fui l'occupation par le M23 de plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Ils ne demandent qu'une chose, le retour de la paix dans leur milieu d'origine. Rodolphe Polita est l'invité de Radio Okapi cet avant-midi. Il est le chargé de suivi et évaluation au sein du réseau des associations congolaises des jeunes RAKOJ. Il parle de l'approche d'appui à la réponse menée par la communauté RMC pour répondre efficacement aux besoins des personnes déplacées. Bonjour à tous. Élection primaire au sein de l'Union sacrée pour la nation. Vital Kamerhe a été élu hier mardi tard dans la soirée, candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale. Sur 372 députés et votants de l'Union sacrée, Vital Kamerhe a obtenu 183 voix, suivi de Christophe Mboso 113 et Modeste Baati-Lukwebo 69. 7 bulletins de vote ont été nuls. Avant son élection, le leader du regroupement politique UNC et Alliés dit que son mandat est inscrit sur la rigueur. Dans un contrôle parlementaire sans complaisance. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kifin Dangoy.
Je voudrais vous dire avec émotion combien je retrouve ce micro de l'Assemblée nationale. Ça m'a beaucoup manqué. Et en le retrouvant, croyez-moi, je ne vais pas le lâcher. Parce que, à l'époque où je l'avais, d'aucuns pensent que j'avais fait tout un mandat, mais c'était 2 ans et 3 mois seulement. Mais on continue à parler de cette belle époque où nous voyons l'honorable Sesanga monter ici, parler à l'aise jusqu'à la fin, et j'appelle Boshab, venez contredire Sesanga. Argument contre argument. Tout en étant loyal au président de la République démocratique du Congo, la loyauté n'exclut pas l'efficacité. Nous allons renforcer le contrôle parlementaire. Chaque mercredi, nous convoquerons les membres du gouvernement secteur par secteur pour suivre l'accomplissement de leur mission.
Restons à Kinshasa, où la nouvelle société civile congolaise dénonce la tentative de prise en otage du peuple en détresse et la privatisation de l'appareil de l'État par une certaine classe politique égoïste. Déclaration faite hier dans un communiqué. Son coordonnateur déplore le fait que près de 4 mois après l'investiture du chef de l'État à la magistrature suprême, la RDC peine à mettre en place le gouvernement malgré la nomination de l'informateur et de la première ministre. Des consultations tirent en longueur comme si ces autorités ne sont pas conscientes de l'extrême urgence de la sécurisation du pays, dit-il. On écoute le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela.
Pendant ce temps, regrette la nouvelle société civile, à Kinshasa, cette préoccupation majeure et vitale de la nation est reléguée au second plan et devenue le cadet de soucis de la majorité au pouvoir. L'ère est plutôt à la guerre de positionnement dans les institutions de la République. Près de 70% des députés nationaux ont pour suppléants les membres de leur famille biologique. La nouvelle société civile congolaise craint que cette propension se répète dans la nomination des membres du gouvernement, dans la diplomatie, comme dans les entreprises publiques. Décidément, le pays est pris en otage et privatisé par une minorité de la classe politique égoïste actuellement au pouvoir. C'est toujours le même figure politique qui ont mis le pays à genoux et qui tente de revenir ou de se maintenir avec la même méthode de positionnement familial. Le renouvellement de la classe politique, encore du chemin à faire en République démocratique du Congo. Une promesse sans lendemain.
Toujours dans le chapitre politique, un peu d'histoire dans ce journal. Comprenez mon émotion. Cette phrase devenue célèbre en RDC a été prononcée par feu le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Azabanga, à l'époque président du Zaïre. C'était le 24 avril 1990 à la cité de Lancélé à Kinshasa, devant les cadres du Parti unique, le mouvement populaire de la révolution MPR. Il a annoncé avec émotion, des larmes aux yeux, la fin du monopartisme. Et c'est le début d'un long processus de démocratisation après 25 ans de dictature. 34 ans après, nous vous faisons revivre ce moment pathétique de l'histoire de la RDC dans cet extrait du discours de feu maréchal Mobutu Sese Seko.
Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Il sera l'arbitre, lieu d'ultime réflexion. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
Et 34 ans après l'ouverture de l'espace démocratique congolais par feu le président Mobutu, le bilan est mitigé. C'est en tout cas l'avis du politologue Christian Moleka. Il affirme que l'on a malheureusement assisté notamment à l'émergence des petits Mobutu, aujourd'hui appelés autorité morale dans les partis politiques. On l'écoute.
Je dirais personnellement que le bilan est assez mitigé. Autant on peut saluer l'ouverture de l'espace public à la pluralité des idées, à la pluralité syndicale, à la pluralité des médias, à la pluralité des partis politiques, autant on peut se questionner sur la qualité de cette ouverture en termes de progrès dans la circulation des idées, dans la liberté d'opinion et d'expression, autant on peut se questionner sur la finalité ultime qui était celle du développement. Est-ce que cette ouverture démocratique a permis d'asseoir la stabilité et le développement que beaucoup de Congolais attendaient? Autant on peut se questionner également sur une forme de régression dans l'espace interne en termes de démocratie interne. Oui, on a un espace public qui est assez ouvert, mais qui est géométralement opposé à un espace de démocratie interne fermé, où on a vu par contre des petits Mobutu naître au sein des partis politiques, à telle enseigne qu'on a aujourd'hui des présidents fondateurs à la tête des partis politiques, alors qu'on a renversé le président fondateur dans l'espace public. Et donc oui, l'espace public, de manière générale, s'est ouvert sans grand progrès qualitatif. Par contre, l'espace de la démocratie interne est resté presque le même, avec une forme de monolithisme du pensée.
C'est un dossier signé Alain Irung Mushinge. Processus électoral à présent, le président de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé ce mardi à Mbujimayi au Kasaï oriental. Denis Kadima veut se rendre compte des préparatifs des élections des gouverneurs et des sénateurs qui auront lieu lundi prochain, 29 avril, dans toutes les provinces. Le président de la CENI prévoit également d'échanger avec quelques parties prenantes au processus électoral. Après sa rencontre avec le gouverneur de province, le président de la CENI s'est exprimé auprès des journalistes accrédités au gouvernorat du Kasaï oriental. On écoute le président de la CENI, Denis Kadima.
Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que le pays va tenir des élections dans quelques jours, les élections des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Je suis ici avec une délégation pour voir comment les préparatifs sont faits et pour comprendre comment les choses se passent. Il faut bien entendu commencer par le gouvernorat et c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous allons rencontrer les autres parties prenantes afin de les écouter aussi et faire passer le message parce que nous voulons des élections paisibles, des élections qui se déroulent dans de bonnes conditions. Le 29 avril, nous aurons des élections. Les élections des sénateurs en même temps que les élections des gouverneurs. Ça, il faut le souligner parce que à des moments, il y a des hésitations, mais je confirme ici que nous allons organiser ces élections-là. Et la question de corruption, d'intimidation et tout ce qu'il y a comme ce type de vice, la CENI ne peut que décrier cela et demander aux parties prenantes, aux candidats, à tous ceux qui sont concernés, de minimiser ce genre de choses.
Nous en parlions dans le sommaire. Dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, près de 30 000 déplacés vivent présentement dans la commune rurale de Kanyabayonga. Ils ont fui l'occupation par le M23 de plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Ces déplacés vivent dans des conditions très difficiles à Kanyabayonga. Selon le président du comité local de ces déplacés, des enfants sont contraints de mendier et certaines jeunes filles se prostituent pour survivre. Richard Kalumé plaide pour le rétablissement de la paix dans les zones sous occupation rebelle afin de permettre aux déplacés de retourner dans leur milieu d'origine où ils vivent mieux. Il est au téléphone de Guylaine Kassassia.
Pour vivre dans cette partie, c'est vraiment compliqué pour le moment. Les déplacés font des manœuvres pour survivre. Les uns font des travaux journaliers pour trouver à manger. D'autres jettent les enfants dans la rue toute la journée en train de quémander. Au-delà de tout ça, il y a même des jeunes filles qui font des sexes pour survivre. Vous savez, la terre de Kanyabayonga, naturellement, n'est pas productive. Ce qui fait que tous les déplacés qui sont ici n'arrivent même pas à trouver à manger parce que les pays qu'on produit ici sont directement consommés parce que tous les axes d'approvisionnement de cette partie sont vraiment fermés. Même si vous arrivez au marché, pour le moment à Kanyabayonga, vous pouvez manquer quoi acheter. C'est vraiment urgent que le gouvernement puisse rétablir le plus vite possible la situation sécuritaire pour que chaque déplacé puisse regagner son milieu d'origine.
D'autres déplacés sont signalés au sud Kivu. Il s'agit ici de près de 4500 ménages de déplacés internes à l'extrême sud du territoire de Fizi, secteur de Lulenge. Ils sont depuis le week-end dernier à Igomba et Kilembwe Centre dans le groupement Basimimbi ainsi qu'à Lusilu dans le groupement Obekulu. Ils ont vidé leur village d'origine depuis le 16 avril dernier, fuyant le risque d'affrontement armé entre deux factions des combattants Hutu-Rwandais de CNRD, ex-FDLR, au village Bakangala Katupu. Le chef du secteur de Lulenge, Zawadi Kabandilwa, à Bambé, tire la sonnette d'alarme dans un communiqué sur le danger de la promiscuité dans laquelle vivent ces personnes déplacées dans les villages d'accueil, fils d'Angoma.
Les disputes entre les deux factions armées hutu-rwandaises, dirigées par le général Amada et le général Théophile, ont commencé à Bitongo, dans la forêt de Ewabora. Les vrais motifs ne sont pas connus. Cependant, le général Théophile, qui s'est retiré avec un grand effectif d'hommes, d'armes et de munitions vers Katupu, s'est opposé à ce que le général Amada et ses hommes viennent se ravitailler en produits alimentaires au marché de Kilembwe et Katupu. Les deux groupes armés ont sorti leur arsenal militaire et leurs combattants se regardaient en chien défaillance le week-end avec le risque de s'affronter. Cette situation a plongé dans la panique et occasionné le déplacement des populations civiles congolaises vers Igomba, Lusilu et Kilembwe Centre. Le chef des secteurs de Lulenge, Zawadi Kabandilwa, affirme qu'un cas de diarrhée est signalé au centre de santé de Lusilu parmi les déplacés internes. Les enfants scolarisés arrivés à Kilembwe n'étudient pas. Ces déplacés venus des villages Katupu, Asenge, Asee, Motema, Bualemba et Namilela sont logés dans des familles d'accueil. Pendant ce temps, les combattants du général Théophile sont dispersés entre Makola, Magembe et Katupu. L'autorité civile locale compte offrir la médiation et conscientiser les deux généraux rwandais pour vider son entité afin que les déplacés regagnent leur village et demande aux humanitaires de voler au secours de ces civils déplacés. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
La Commission nationale des droits de l'homme, bureau de représentation du Haut-Katanga, tire la sonnette d'alarme sur les pratiques dégradantes en vigueur dans les maisons carcérales de la province. Joseph Kongolo, son coordonnateur, en veut pour preuve les actes de torture infligés aux nouveaux détenus par les anciens dans la prison de Boma à Kipushi dans le Haut-Katanga. Pour lui, il est plus que temps que ces actes soient découragés et leurs auteurs traduits en justice. Suivez Joseph Kongolo, coordonnateur de la CNDH.
Par rapport à la torture et autres traitements inhumains, cruels et dégradants qui se pratiquent dans nos prisons, la CNDH BRP Haut-Katanga recommande à Madame la ministre de la Justice et au chef des divisions provinciales de la justice de veiller à la stricte application de la loi pénitentiaire dans les prisons, de veiller à la stricte application du régime disciplinaire dans les prisons, de traduire en justice les détenus et les agents pénitentiaires qui vont se permettre d'appliquer la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants dans les prisons, de renforcer les capacités du personnel pénitentiaire si les différentes lois nationales et internationales relatives à la gestion des prisons et de procéder à la formation des détenus collaborateurs des agents pénitentiaires sur tout ce qui concerne l'ordre, la discipline au sein des prisons.
Actualité internationale.
Au moins 21 migrants, dont des enfants, sont morts et 23 autres sont portés disparus hier mardi dans le naufrage de leur embarcation au large de Djibouti, annonce faite par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le bateau transporté des Éthiopiens venant du Yémen a indiqué sur X l'ambassadeur éthiopien à Djibouti en précisant que l'accident a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi au large de Godoria, au nord-est du pays. 77 migrants étaient à bord de l'embarcation.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le chargé de suivi et évaluation au sein du réseau des associations congolaises des jeunes RACOJ. Rodolphe Polita nous parle de leur approche d'appui à la réponse menée par la communauté RMC que son organisation applique pour répondre efficacement aux besoins des personnes déplacées. Approche présentée samedi dernier à l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, l'Allemagne étant un de leurs donateurs. Qu'est-ce que cette approche RMC et quel bilan dressé depuis qu'elle est mise en application? Réponse de Rodolphe Polita dans cet entretien avec Bernard Danyangi.
Monsieur Rodolphe Polita, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Dans l'exécution de vos projets, il y a l'approche RMC. Ça veut dire quoi d'abord?
L'approche RMC veut dire réponse menée par la communauté. Au fait, c'est un ensemble des actions ou des initiatives, voire des projets qui peuvent être écrites, qui peuvent être défendues ou encore faire objet de plaidoyer auprès des partenaires RACOJ que nous sommes et qui peuvent être appuyés en termes financiers, en termes d'accompagnement par les RACOJ pour aider les communautés elles-mêmes à mettre en œuvre ces actions ou ces initiatives dans leur communauté et ainsi répondre à certaines crises de manière locale, ce qui permet à la communauté d'avoir une certaine capacité de résilience ou de faire face à une crise, mais aussi d'accroître un tout petit peu la cohésion entre les communautés, parce que lorsque les communautés se mettent ensemble pour identifier leurs problèmes, se mettent ensemble pour rédiger des micro-projets afin d'obtenir des micro-subventions et mettre en œuvre ces projets, c'est quelque chose de bien qui leur permet de passer du temps ensemble, de réfléchir ensemble et de voir comment ils peuvent faire face à leurs problèmes ensemble.
Alors, le RACOJ a développé un projet avec une ONG locale, un groupe engagé pour le développement intégral, qui exécute un projet de signalisation des endroits où il y a la forte concentration de mazoukou ou COD qui constitue une menace pour le déplacé et aussi les locaux. Est-ce que cette approche est-elle appliquée?
Effectivement, il y a eu des alertes sur plusieurs morts vers Boulengo causées par ces environnements pollués par ces gaz qui s'appellent mazoukou. Et nous avons reçu, dans le cadre d'un projet d'amélioration de la résilience de la population de Boulengo et de Moudja face à la crise actuelle dans le Nord Kivu, un micro-projet soumis justement par cette organisation pour mettre des panneaux de signalisation au niveau de ces sites qui contiennent des mazoukou. Et nous avons jugé que c'était un projet pertinent et ce projet-là a été validé par les membres de la communauté. Et nous avons mis les moyens à ces groupes pour pouvoir mettre ces panneaux qui vont informer les communautés sur les dangers qu'ils courent en parcourant ces zones-là et ainsi réduire tant soit peu l'impact.
À part peut-être ce projet, y a-t-il un autre qui peut servir d'un cas où il y a eu un bon succès en mettant en application cette approche?
Avec notre partenaire Diakoni, il y a ce projet-là d'amélioration de la résilience de la population que nous avons à Boulengo et à Moudja. Mais nous avons aussi, dans le cadre d'un autre programme que nous avons avec Diakoni, le programme Together, qui vise justement à renforcer les capacités des organisations locales. Nous avons donc un projet OIFA que nous mettons en œuvre à Don Bosco et que nous avons aussi dans le passé mis en œuvre à Moudja, où nous avons également abordé le projet avec cette même approche des RMC et nous avons vu des communautés qui ont soumis par exemple des projets d'installation de points d'eau dans les villages de Kanyati, par exemple, qui avaient des sérieux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Et à ce jour, Kanyati n'a plus de problème d'eau parce que la communauté s'est arrangée à installer des tanks et à ravitailler de manière régulière avec de l'eau potable pour servir la population. Nous avons dans les villages de Ngangi 2 un groupe communautaire, par exemple, qui a soumis un projet pour lui permettre d'équiper son centre de santé avec des lits et des matelas de manière à permettre aux malades d'avoir un environnement approprié pour se faire soigner.
Est-ce que ce n'est pas que bon, vous donnez l'argent et c'est tout, il n'y a pas autre chose?
Non, non, nous ne donnons pas que l'argent. Il y a cet appui financier que nous apportons aux groupes communautaires ou aux organisations locales ou communautaires. Mais il y a aussi tout un paquet d'accompagnement que nous donnons aux communautés. Il y a
dans le même cadre de cette approche.
Justement, dans le même cadre de ces projets, il y a des mécanismes de renforcement des capacités des organisations sur les capacités managériales, sur la gestion des projets. Comment est-ce que lorsqu'ils reçoivent ces projets, ils doivent les gérer sur le plan opérationnel? Nous apportons aussi un appui en outils pour une gestion technique ou financière. Et jusqu'à présent, je pense que la communauté se comporte bien au niveau de notre province de Nord-Kivu.
Monsieur Rodolphe Polita, merci.